Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiyot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce jeudi 14 janvier 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Le réacteur de recherche de Téhéran reprend ses activités pour développer des recherches sur la conception de nouveaux types optimisés de combustible nucléaire. En France, deux militaires, dont un travaillant au ministère de la Défense, ont été interpellés pour trafic d'armes. Et la Chambre des représentants des États-Unis s'est réunie pour initier une procédure de destitution contre le président sortant Donald Trump, et ce pour la deuxième fois de sa présidence. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'ambassadeur d'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne, Kazem Gharib Abadi, a annoncé mercredi 13 janvier que le réacteur de recherche de Téhéran reprenait ses activités pour développer des recherches sur la conception de nouveaux types optimisés de combustible nucléaire. Il a ajouté que l'Iran avait informé l'Agence internationale de l'énergie atomique, IAEA, de cette décision et que le directeur général de l'agence a publié un rapport à ce sujet pour informer à son tour les pays membres de l'IAEA. Gharib Abadi a ajouté que les nouvelles recherches se réaliseraient en trois phases, dont la première porterait sur la production de l'uranium métallique à partir de l'uranium naturel. Il a souligné que Téhéran avait remis à l'IAEA, il y a 2 ans, son rapport préliminaire concernant ce plan de recherche. Avec la réalisation de ces recherches, nous espérons obtenir une avancée technique considérable dans le domaine de la production de nouveaux types de combustibles atomiques, a déclaré l'ambassadeur d'Iran. Il a ajouté que le rapport de toutes les étapes de ces recherches serait remis à l'IAEA, soulignant que les inspecteurs de l'agence avaient visité il y a 3 jours l'usine de fabrication du combustible à plaques. Dans le cadre des mesures à prendre pour annuler les sanctions, une récente loi approuvée par le Parlement iranien a chargé le gouvernement de reprendre la production de l'uranium enrichi à 20% pour en produire et stocker au moins 12 kg par an. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIOA, doit mobiliser tous ses moyens pour produire l'uranium enrichi à 20% pour les usages pacifiques. Dans ce cadre, l'OIOA a recommencé les opérations de la production de l'uranium enrichi à 20% aux installations nucléaires de Fordo dès lundi 4 janvier. Le réacteur de recherche Téhéran sera le consommateur principal de l'uranium enrichi à 20% qui sera produit à Fordo. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bareri, a déclaré mercredi 13 janvier que la marine iranienne reprendra ses patrouilles dans la mer Rouge. Ce mercredi, le navire lance-missile Zireh et le porte-hélicoptère Makran ont rallié la marine iranienne lors des manœuvres navales baptisées Ertedar, autorité. À cette occasion, le général de division Mohammad Bareri a déclaré: la marine de la République islamique d'Iran se charge avec toute sa puissance d'assurer la sécurité des eaux territoriales et des frontières maritimes pour défendre les intérêts nationaux de l'Iran, les ressources d'énergie fossile offshore et les voies de la navigation maritime du pays. Le porte-hélicoptère Micron, conçu au plus fort des sanctions, est une base navale flottante dont la mission consiste à étendre la profondeur stratégique du pays et approfondir les missions d'assistance et opérationnelles de l'Iran dans les eaux lointaines, a-t-il aussi précisé. Le général Barelli a souligné ensuite la puissance de dissuasion de la marine iranienne. Il a déclaré que cette dissuasion maritime était l'un des éléments importants qui ont permis à la flottille des pétroliers iraniens de contourner les sanctions américaines et de transporter du pétrole et de l'essence au Venezuela. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes a annoncé que la marine reprendra ses patrouilles et ses missions d'escorter les navires marchands iraniens dans la mer Rouge pour les protéger contre les pirates. Mercredi soir, des sources bien informées ont fait part de l'entrée d'un convoi militaire américain de 60 véhicules via la frontière irakienne. Le convoi militaire de l'armée américaine est entré en Syrie via le poste frontière illégal d'Al-Walid en Irak. Selon le rapport, le convoi militaire composé de 60 camions transportait du matériel militaire et de la logistique américain à destination des bases militaires illégales de l'armée américaine dans la banlieue d'Al-Asaka, dans le nord de la Syrie. Il convient de noter que le Pentagone a récemment envoyé un convoi de 30 véhicules, y compris des camions transportant du matériel militaire lourd, notamment de l'artillerie, des chars et d'autres équipements militaires dans la banlieue de Deir ez-Zor, pour fortifier ses bases dans la région. Simultanément aux nouveaux agissements militaires des troupes américaines dans les provinces septentrionales de la Syrie afin de renforcer leurs bases illégales dans ce pays et de soutenir les terroristes Daesh, Israël se permet un nouvel avant-durisme en s'infiltrant les régions nord de la Syrie. Les agressions de l'armée israélienne sont coordonnées avec les militaires américains dans le nord de la Syrie pour soutenir les mercenaires terroristes pro-américains. Selon un haut commandant de l'armée syrienne, la nouvelle agression israélienne dans la région s'est déroulée en même temps que les récents actes terroristes de Daesh contre les bases de l'armée syrienne et les voies publiques. Quittons la région et allons directement en France, où deux militaires, dont un travaillant au ministère de la Défense, ont été interpellés pour trafic d'armes. 10 personnes, dont deux militaires en activité, ont été interpellés et placés en garde à vue mardi dans une enquête sur un vaste trafic d'armes en France. A-t-on appris mercredi des sources judiciaires et proches du dossier confirmant une information de TF1. Ce coup de filet a été ordonné par des juges d'instruction parisiens chargés depuis le 25 juin 2020 d'une information judiciaire pour acquisition, détention, cession, transport d'armes de catégorie A et B en réunion et association de malfaiteurs, a précisé la source judiciaire. Le réseau est soupçonné d'avoir fourni des armes à des trafiquants de drogue et des sympathisants d'ultra-droite, a indiqué la source proche du dossier. Selon les informations de la chaîne de télévision confirmée à l'AFP, de sources proches du dossier, les suspects ont été arrêtés à travers l'Île-de-France, l'Est, mais aussi le sud de la France, par la brigade de répression du banditisme PRP de la police judiciaire parisienne. L'un des deux militaires arrêtés travaille au ministère de la Défense et l'autre est affecté sur une base de l'Est de la France. Joint par l'AFP, le ministère de la Défense n'avait pas réagi en début de soirée. Une page de l'actualité africaine. En Centrafrique, un casque bleu a été tué à un autre blessé dans les affrontements à la périphérie de Bangui. Des attaques ont eu lieu le mercredi 13 janvier, simultanément à la sortie nord et à la sortie sud-ouest de Bangui. La MINUSCA a attribué les attaques aux groupes armés coalisés anti-Balaka UPC, 3R et MPC et leurs alliés politiques, notamment l'ancien président François Bozizé. À la mi-journée, une accalmie a été observée à la périphérie de la capitale. Les ratissages sont en cours, a précisé le premier ministre centrafricain Firmin Ngrebada sur son compte Twitter. Face à l'insécurité croissante, le gouvernement centrafricain a modifié le temps du couvre-feu selon un communiqué lu à la radio et à la télévision nationale, le ramenant de 18h à 5h du matin au lieu de 20h à 5h du matin précédemment. Depuis la mi-décembre, des groupes armés se sont coalisés pour lancer une offensive contre le gouvernement. La nouvelle alliance rebelle, portant le nom de Coalition des Patriotes pour le Changement, avait juré de marcher sur Bangui. Et pour fermer le journal, la Chambre des représentants des États-Unis s'est réunie mercredi pour initier une procédure de destitution contre le président sortant Donald Trump, et ce pour la deuxième fois de sa présidence. Bien que la procédure ait été lancée par les démocrates, peu de représentants républicains semblent pour le moment prêts à défendre le président. Face au nombre croissant de membres républicains de la Chambre, une assemblée à majorité démocrate ayant déclaré leur soutien à la procédure de destitution contre Trump, les parlementaires s'opposant à cette procédure ont fait valoir qu'il s'agissait d'une décision précipitée. Une semaine à peine s'étant écoulée depuis l'émeute déclenchée au Capitole par les partisans de Trump. Les représentants républicains ont également exhorté leurs homologues démocrates à s'efforcer d'unir plutôt que de diviser un pays déjà largement déchiré par les luttes partisanes. Peu avant midi, la Chambre a adopté au cours d'un vote les règles régissant la procédure de destitution. Les législateurs débattront dans l'après-midi de l'article de mise en accusation de Trump avant de se prononcer par un vote qui risque bien de se solder par la deuxième procédure de destitution contre Donald Trump au cours de sa présidence. Ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Guerre navale US-Iran change de théâtre. Quelle est la mission de Macron? Il y a peu, une source arabe a rapporté que l'axe USA-Israël avait l'intention de créer une base militaire sur l'île de Perim, au large des côtes du sud-ouest du Yémen et du détroit stratégique de Bab el-Mandeb. L'île de Moun, ou Perim, est une île volcanique qui divise l'entrée de la mer Rouge en deux parties orientales, appelées le détroit d'Alexandre, de 3 km de large, et une partie ouest appelée Dekal Mayoun, de 25 km de large, ce qui en fait un carrefour propre à jouer un rôle très important dans le contrôle du passage maritime dans la région. Perim, occupé par les Émirats arabes unis, est censé donc être livré à l'axe USA-Israël qui, et cela, la source arabe ne le dit pas clairement, a l'intention pour s'en servir, à l'effet de compromettre le trafic maritime évidemment en défaveur de la résistance. La Chine et la Russie aussi en pâtiraient. Perim viendrait donc, d'après les calculs quelque peu bancals de l'axe USA-Israël, s'ajouter à Socotra, cette autre île du sud de la mer du Yémen, elle aussi occupée par les Émirats et qui, de par sa proximité avec la mer d'Oman et le nord de l'océan Indien, occupe une position stratégique en ce qui concerne le contrôle du trafic maritime. Mais c'est peut-être allé, comme toujours, trop vite aux besognes. Ce mercredi, parallèlement aux manœuvres de missiles anti-navires des forces marines de l'armée iranienne dans les eaux de Macron, mer d'Oman et océan Indien, le plus grand navire de guerre iranien les a ralliés. Il s'agit du porte-héliporteur Macron. Ce bâtiment de guerre a rejoint les forces navales du pays pour des missiles extraterritoriaux et à l'effet de préserver les intérêts navals de l'Iran. Et Macron n'était pas seul. Le navire lance-missile Zereh, armure en persan, a pris part aux exercices baptisés Ertedar, autorité, qui se déroulent en ce moment même dans le golfe Persique et au détroit d'Ormuz. Le chef d'état-major, le général Barelli, l'a annoncé très clairement. Le port-hélicoptère Macron, conçu au plus fort des sanctions, est une base navale flottante dont la mission consiste à étendre la profondeur stratégique du pays, approfondir des missions d'assistance et opérationnelles de l'Iran dans les eaux lointaines. C'est dit, et même très bien dit. ce face-à-face naval que l'ex-USA Israël cherche depuis 2019 à provoquer avec l'Iran dans le Golfe Persique tende à changer d'épicentre et à se dérouler pas trop loin des frontières maritimes d'Israël en mer Rouge. D-Drive, revue militaire américaine, très sensible aux évolutions rapides du secteur militaire iranien, déboycottisé, revient sur Macron et affirme le porte-hélicoptère Macron représente une base flottante. Il est capable de transporter 7 hélicoptères. C'est le plus grand navire de guerre du Moyen-Orient chargé d'effectuer des missiles dans le nord de l'océan Indien, le détroit de Bab el-Mandeb et la mer Rouge. Macron peut servir à la fois la flottille navale de l'armée iranienne et d'autres cargos. Le contre-amiral Hossein Khanzadi, commandant de la marine de la République islamique d'Iran, a déclaré aux médias que le Macron est en mesure d'embarquer 6 à 7 hélicoptères pour des missions multiples, guerre électronique, attaque aux missiles et aux drones et opérations spéciales. Avec une longueur de 755 pieds, le Macron est considérablement plus grand que le Shahid Rudaki du corps des gardiens de la révolution islamique, qui mesure 492 pieds. Il est environ de la taille des bases expéditionnaires de la marine américaine ESP, qui mesure 764 pieds. Après l'attaque au missile réussie contre la base US Ain al-Assad en Irak, l'Iran semble plutôt exploiter cette expérience pour construire des bases flottantes et pas immobiles. Le porte-hélicoptère Shahid Rudaki, à titre de comparaison, était lors de son inauguration équipé de systèmes de missiles et de lanceurs de missiles de croisière et anti-navires. Le Macron dispose encore plus d'espace offert pour accueillir systèmes d'armes, systèmes de radar, lanceurs de missiles de croisière et balistiques fixes ou mobiles et artillerie de gros calibre. Et la revue américaine ajoute le Macron est conçu pour des missions de lutte anti-mine, des opérations humanitaires, des manœuvres anti-sous-marines, la lutte contre la piraterie et les opérations de sécurité nationale. De toute évidence, une base expéditionnaire iranienne déployée en mer Rouge peut être un grand soutien aux combattants d'Ansarallah du Yémen. Vendredi, le corps des gardiens de la révolution islamique a fait état d'une nouvelle base souterraine contenant des missiles stratégiques et de longue portée dans la région du Golfe Persique, sans toutefois divulguer l'emplacement exact.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des débats. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a accusé l'Iran d'avoir des liens avec Al-Qaïda, le groupe terroriste. Al-Qaïda de Mike Pompeo est allé de plus loin dans ses allégations sans fondement en prétendant que l'Iran est devenu la base ou bien la nouvelle base du réseau terroriste à Al-Qaïda. La réaction du côté de Téhéran était immédiate. Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que tous les auteurs impliqués dans les attentats du 11 de septembre venaient des pays préférés de Mike Pompeo. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également souligné dans sa réaction sur sa page Twitter que Mike Pompeo, qui était quelqu'un qui était réputé pour ses mensonges, pour ses tricheries, met fin à sa carrière dangereuse et avance en fait de telles allégations sans fondement contre l'Iran. Ces allégations du côté américain, dans l'état actuel des choses, à une semaine, si vous voulez, de la fin de cette administration de Trump, intervient à un moment où tout le monde le sait, que les groupes terroristes dans la région sensible et névralgique du Moyen-Orient sont créés par les États-Unis. Les autorités américaines elles-mêmes l'avaient déjà affirmé, même Donald Trump, qui était un président catastrophique pour les États-Unis et pour le monde entier, avait en fait, lorsqu'il était en campagne électorale, avait souligné que le groupe terroriste Daesh, c'était une création des États-Unis. Même chose également pour Al-Qaïda, le groupe terroriste Al-Qaïda qui a été créé dans la région avec l'aide des amis et des pays préférés de Donald Trump et de son secrétaire d'État Mike Pompeo. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Toulouse un analyste français spécialiste des questions internationales qui est en ligne avec moi pour cette émission. C'est M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Navostine, bonjour à tous vos auditeurs et à votre remarquable invité aussi.
Exactement, l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui que vous qualifiez à juste titre de remarquable, monsieur Dortiguier, c'est madame Aïssa Rehmidani, analyste franco-syrienne, qui est avec moi pour cette émission par Skype depuis Paris. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci pour l'invitation. Merci, bonjour aussi à monsieur Dortiguier et à tous les téléspectateurs de Presse TV.
Madame Midani, je viens de lancer le sujet. Comment t'expliquez-vous ces accusations sans fondement du secrétaire d'État américain Mike Pompeo contre l'Iran, s'il vous plaît?
Écoutez, je crois que de toute façon, comme c'est bien, vous l'avez bien indiqué dans votre introduction, les États-Unis sont habitués du fait d'envoyer des accusations d'une part sans aucun fondement, d'autre part de faire eux-mêmes les choses et puis d'en accuser les autres. Il est clair que ce sont eux qui ont créé Al-Qaïda. C'est, de toute façon, même Hillary Clinton l'a affirmé à plusieurs reprises, aussi bien dans sa campagne électorale que dans son livre « Hard Choices », où elle disait quand même que ces terroristes, ce sont nous qui les avons créés pour combattre l'Union soviétique en Afghanistan et aussi pour exporter notre démocratie. De la même manière, Trump, dans sa campagne électorale, a à nouveau affirmé aussi que ce sont eux qui les ont créés. Comme en plus, nous savons que l'Arabie saoudite a donné beaucoup d'argent pour la création d'Al-Qaïda, pour le recrutement justement d'un tas de personnes aidées. Ils ont aussi organisé les camps d'entraînement, etc., pour soi-disant libérer l'Afghanistan du communisme. Donc, en fait, c'est clair et net que ce sont eux qui les ont créés, d'autant plus aussi que les événements du 11 septembre, il s'est avéré que des dires des Américains eux-mêmes et de l'administration américaine, que c'était des Saoudiens et que ce sont eux qui l'ont organisé. Donc en fait, la réponse de l'Iran en disant que ce sont vos alliés préférés dans la région qui ont abrité Al-Qaïda et qui les ont recrutés, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait juste, ça d'une part. D'autre part, il est certain, et toutes les pratiques américaines, je dirais, états-uniennes dans la région ont montré aussi, moi je peux parler de la Syrie, Daesh, Al-Nusra qui a été aussi recruté et entraîné par les forces de l'OTAN, donc les États-Unis et aussi les forces du Mossad et tous les services de renseignement des pays de l'OTAN. Eux aussi, ils commettaient des crimes, des massacres et des horreurs, et ils en accusaient systématiquement l'État syrien, le gouvernement syrien, de leurs crimes. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez habituel chez les Américains de commettre les choses et puis d'en accuser les autres. Un dernier point que je voudrais dire, quand il dit qu'il ne serait pas étonné qu'il y ait qu'Al-Qaïda fasse des crimes actuellement, commette des crimes actuellement pour le compte de l'Iran, ça veut dire que c'est une manière de commanditer des crimes à Al-Qaïda parce qu'il compte bien les mettre sur le compte de l'Iran. C'est exactement ça. C'est une annonce en fait de ce qu'ils vont, exécuter et de ce qu'ils vont réaliser comme crime et comme assassinat. Sachant que les États-Unis et Israël sont habitués aussi des assassinats et des grands crimes contre les personnalités. D'ailleurs, le général Qassem Soleimani, le général Al-Mohandes, le grand scientifique Mohsen Fakhrizadeh et aussi des nombreux chercheurs et scientifiques syriens et iraniens. Donc, en fait, ce sont aussi ce sont des habitués des crimes et des habitués des accusations des autres.
Monsieur d'Ortiguet, Madame Mehmidani vient de le préciser tout à l'heure, Al-Qaïda a été créé pour la première fois en Afghanistan par les Américains, avec l'aide de leur... Oui. Allié le plus proche dans la région, l'Arabie Saoudite, qui est réputée pour sa pensée wahhabite, pour et surtout de l'exportation de sa pensée wahhabite, non seulement dans la région du Moyen-Orient, mais désormais en Afrique et ailleurs dans le monde, une pensée qui s'avère très, très dangereuse. C'est une chose évidente, en fait, et connue pour le monde entier. Ensuite, il y a eu d'autres groupes terroristes qui ont été créés, très particulièrement le groupe terroriste Daesh. Monsieur d'Ortiguet, une chose est évidente. Le terrorisme dans la région du Moyen-Orient est au service de la politique américaine, n'est-ce pas?
Oui, en effet, il est au service de la politique américaine, qui est elle-même l'exécutant, disons, de groupes financiers entre aux États-Unis même et à l'extérieur. J'en veux pour preuve le soutien à cette déclaration de M. Pompeo, qu'a fait, ou une déclaration analogue, disons, qu'a publié le New York Times. Le New York Times, en effet, qui avait soutenu Mme Clinton dans la dernière campagne électorale, et qui se présente, disons, comme démocrate, c'est-à-dire opposé au président Trump, eh bien, lui-même, disons, a soutenu, en parlant de Hamas, en parlant de... il a soutenu cette idée que les groupes terroristes, dans lesquels il met le Hamas, mais aussi Al-Qaïda, étaient au service de l'Iran. C'est donc une opinion qui n'est pas une opinion, disons, partisane, propre à monsieur, au groupe de monsieur politique de M. Pompeo, mais qui semble être, disons, générale, partagée par tous ces groupements américains, qui d'ailleurs sont liés intimement, bien sûr, à la politique sioniste, liés intimement à des monarchies qu'ils ont créées et dont ils ont pris la suite de l'Angleterre. Donc ils ont pris la suite, je veux dire, donc ils ont prolongé, disons, le protectorat anglais depuis les accords du Quincy en 1945, vous savez, les accords de Roosevelt. Eh bien, disons que là, c'est Al-Qaïda est véritablement leur instrument, c'est celui qu'avait mis au point M. Brzezinski pour la guerre en Afghanistan. Et je dois dire que je tiens à souligner bien ce que vient de dire Mme Zani, que cela présage des attentats, c'est-à-dire qu'on essaie, disons, de qualifier des troubles, voyez-vous, des assassinats, des exécutions, peut-être même voire des interventions militaires, voyez-vous, sous le faux drapeau de lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire c'est un terrorisme qui accuse lui-même, disons, ses adversaires, d'être ses ennemis, d'être des terroristes. C'est une inversion accusatoire, si vous permettez, voyez. Voilà exactement. C'est très grave, car cela n'est pas lié, disons, à la politique de tel ou tel candidat américain, mais cela signifie que nous rentrons dans une période très dangereuse, et pour nous, les Français, disons, nous retiendrons toujours la fameuse formule de M. Laurent Fabius, vous savez que nos auditeurs connaissent, bien sûr, les francophones surtout, à savoir que Al-Nosra fait du bon boulot. Vous savez, il avait dit ça à Marrakech, je crois. Et donc, ceci est signé. C'est un crime, voyez-vous, ce crime de soutien de ces organisations terroristes, c'est un crime qui n'est pas seulement national. Ce n'est pas le fruit d'un impérialisme seulement, comme on dirait l'impérialisme américain, comme on pourrait dire l'impérialisme soviétique ou autrefois, ou russe. Non, il s'agit là d'une organisation internationale, je prends au point de en parlant d'Al-Qaïda, qui recrute pas dans le monde. Mais ils sont également supportés par des armées, par des États qui les arment, qui les nourrissent. Il ne s'agit pas de former des hommes, mais également de donner du matériel, de donner une assistance logistique. Tous ceux-ci sont des mercenaires, en réalité, voyez-vous, qui obéissent à deux objectifs. Un, détruire, bien sûr, les ennemis de ce qu'on pourrait appeler le nouvel ordre mondial, bien sûr. Et en même temps, de faire porter sur le dos de l'islam, c'est très important, de la religion mahométane islamique, de faire reporter, disons, l'accusation de terrorisme. Voyez-vous, c'est comme un joueur de billard, voyez-vous, ils tirent sur une balle, ils tirent sur une boule et ils font jouer une autre boule. Ça, c'est très important. C'est donc nous avons affaire à un plan, là, je dois dire, un plan bien concerté, très dangereux, et justement, très modestement, bien sûr, vous remercier de mettre cette déclaration de M. Pompeo en évidence, car elle est, comme a dit Madame, elle est évidemment l'avertissement aussi de troubles futurs et certainement déjà programmés. Enfin, voilà.
Est-ce que vous aussi vous pensez, vous estimez, Madame, Midani, ça s'inscrit dans le cadre d'un plan bien calculé pour créer de nouvelles troupes et pour aller en fait vers de nouvelles, si vous voulez, aventures militaires ou autres, d'autant plus que le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, aussi a souligné que, réagissant bien sûr à ces propos de Mike Pompeo, que ce sont des propos bellicistes.
Effectivement, c'est pratiquement un ordre qu'il donne Pompeo aux terroristes qu'ils soutiennent de mener quelques actions. D'ailleurs, je voudrais aussi signaler que systématiquement aussi en ce moment, les agressions israéliennes et contre l'ensemble des populations du front de la résistance en fait sont en escalade. L'agression contre les terres palestiniennes, contre les Palestiniens et les prisonniers. Hier, il y a eu aussi des bombardements nouveaux des Israéliens, mais sur les frontières syro-irakiennes, ce qui montre bien aussi qu'il y a une volonté d'une part, et il continue dans le même sens, en fait, que l'assassinat du général Soleimani. Il voudrait effectivement empêcher toute possibilité de coopération et de voie de communication par les terres entre la Syrie et l'Irak. Je voudrais dire quand même, plus il y a rapprochement entre les États syriens et irakiens, plus les bombardements sur les Américains et Israéliens, donc de toute façon, ils sont dans le même camp, qui continue justement sur les frontières syriennes, irakiennes, et les agressions contre l'armée syrienne, contre l'armée irakienne et les forces de Hashd al-Sha'bi. Et donc tout ceci avec des prétextes divers et variés de protection de la soi-disant sécurité ou sûreté de l'État fantoche d'Israël qui a lui agressé tout le monde dans la région et qui a usurpé les terres palestiniennes et le droit des Palestiniens et le droit de tout le monde en fait dans la région et qui pour lequel aujourd'hui et d'ailleurs on l'a vu le mois dernier comment Trump mettait les bouchées doubles pour le soutenir au maximum, le faire soutenir au maximum par des accords avec Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Maroc, etc., qui sont des accords, des alliances de guerre, je dirais, où il y a effectivement des accords sur le renseignement, sur le militaire, sur la communication, sur la culture, d'ailleurs. Et ça paraît quelque chose ça paraît comme ça, des faits qui sont comme ça un petit peu dispersés, mais en réalité, ils versent tous dans le même objectif, qui est celui d'agresser, en fait, l'Iran et d'agresser l'ensemble du front de la résistance, des pays du front de la résistance, et d'imposer le diktat américain et de mettre Israël comme étant le pays qui domine dans la région du Moyen-Orient et d'ailleurs qui aurait main basse sur la richesse pétrolière à la fois aussi de la presqu'île arabe et du Golfe. Donc tout ceci, bien sûr, ne trompe personne. C'est une bataille qui est très rangée et qui est très aujourd'hui qui est en pleine escalade, et ils essayent de mettre les bouchées doubles effectivement avant le départ de Trump du pouvoir, ce qui ne veut absolument pas dire que l'administration Biden sera différente, plus juste, plus correcte, mais elle prend plus des gants, je dirais, et elle prend plus les apparences. Mais il est clair que l'administration Biden ne reviendra absolument pas sur tout ce qui a été décidé par Trump dans cette région, pour ce qui est, par exemple, de la capitale de Jérusalem, qui est devenue la capitale où les Américains ont mis leur ambassade, de ce qui est soi-disant l'annexion du Golan syrien à Israël, mais en fait, qui a été d'ailleurs rejeté par une décision de l'ONU invitant Israël à préparer la libération du Golan et à respecter les lois de l'occupation, en affirmant aussi que le Golan était et restera syrien. Et il est syrien, de toute façon, sous occupation israélienne.
Monsieur d'Ortiguet, est-ce que vous estimez qu'on peut établir un rapport cause et effet entre ces allégations de Pompeo et de la nouvelle administration américaine qui va se mettre en place dans presque une semaine?
Oui, en effet. Il est certain que, il est très probable, mais pour nous, disons subjectivement, c'est certain que l'administration de monsieur Biden, qui reprend la politique de Mme Clinton, qui est dans le même sillage, sera beaucoup plus dangereuse que la politique de M. Trump, quoique celle-ci le soit, mais beaucoup plus dangereuse parce que elle sera, M. Trump avait tout quand même dans sa politique parlé de certains retraits, voyez-vous, des États-Unis, du Proche-Orient, en laissant à ses alliés, à commencer par Israël, bien sûr, le soin grâce à l'argent qu'il recevait, je crois que près de 4 ou 5 milliards par an d'aide américaine, à, disons, assurer sa propre défense, etc. C'est la même chose, la même observation qu'il tenait sur son allié l'Arabie saoudite, que, disons, ces États-là étaient suffisamment riches, etc., pour pouvoir assumer ce qu'il appelle leur propre défense, bien, militairement. Mais ce n'est pas le cas de monsieur Biden, parce que monsieur Biden ajoute au réalisme, si je puis dire, de M. Trump, réalisme qu'on peut qualifier de bien et de mauvais, enfin, ce tempérament réaliste d'homme d'affaires, d'entrepreneur qu'il a. Il y a chez M. Biden, qui est plutôt un diplomate de nature, ou plutôt un haut fonctionnaire, il y a quelque chose de plus hypocrite, c'est-à-dire c'est toujours cette recherche de la défense des droits, c'est-à-dire que c'est un discours, disons, qui n'est pas ouvertement belliqueux, mais qui lui-même, disons, tiendra compte, justement, de ce fantôme du terrorisme d'Al-Qaïda, voyez-vous, ce fantôme iranien, si je puis dire, de ce fantôme iranien pour pouvoir continuer la mobilisation. Mais n'oublions pas, pour être clair, que Mme Clinton avait une politique agressive contre l'Iran. Voyez-vous, nous pensons que si elle avait été élue, nous aurions eu déjà un conflit, ou tout au moins des attaques fort sérieuses. Et je pense que les adversaires de M. Trump, je ne dis pas que lui-même soit un homme tout blanc, non, mais les adversaires de M. Trump, sur ce plan de la politique du soutien à Israël, sont beaucoup plus actifs. Parce que c'est quand même, Israël a toujours eu, disons, des deux côtés, a toujours une manette des deux côtés, républicains et démocrates, mais plonge quand même chez les démocrates, dans les démocrates, ils trouvent un appui, il a une influence beaucoup plus grande, et je n'en veux pour preuve, justement, que cette déclaration sur le caractère terroriste de soutien de Al-Qaïda de l'Iran, qui a été également dans le fameux New York Times, qui quand même tire à plus d'un million d'exemplaires, et est connu pour être un foyer proprement démocrate, etc. Mais très pro-israélien, très très pro-israélien, voyez-vous. En fait, les États-Unis ne peuvent pas se sortir, ils sont comme dans une cage, ils ne peuvent pas se sortir de cette chape impérialiste qui leur a été mise dessus par les politiciens antérieurs. Ils sont dans un destin d'affrontement avec le monde, et je crois que M. Biden est pire, c'est mon opinion naturellement seulement, mais il sera pire s'il est élu que l'aura été M. Trump.
Monsieur Dortiguet, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission, le débat consacré à ces accusations du secrétaire d'État américain finissant Mike Pompeo contre l'Iran, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne, qui a été là avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Et la pratique des courants takfiristes. Les forces de l'armée syrienne et l'aviation russe multiplient leurs attaques contre les positions des terroristes takfiristes dans diverses régions du nord de la Syrie. Cette semaine, à Hama, les groupes terroristes ont rapporté avoir été pris pour cible par des nuées de drones ayant visé leurs camions-citernes. En effet, l'armée russe a déployé ses drones d'attaque pour détruire les camions turcs. Les drones russes ont lancé dans la soirée du lundi 11 janvier une série de frappes puissantes sur les positions terroristes près de la ville de Tahrin, dans la province d'Alep en Syrie, a rapporté Al-Masdar News. Au départ, ajoute Al-Masdar News, on supposait que c'était les avions de combat russes qui étaient à l'origine des frappes. Mais plus tard, il s'est révélé qu'un convoi d'équipement effectuant le transfert illégal de pétrole de la Syrie vers la Turquie a été détruit par des attaques de drones. Ce soir, les terroristes soutenus par la Turquie ont lancé une série d'explosions dans la province d'Alep à la suite d'une attaque de drones contre les sites de contrebande de pétrole. Selon de nouveaux rapports provenant du gouvernorat d'Alep, les frappes de drones ont été menées par les forces aérospatiales russes qui ont à nouveau attaqué les installations de contrebande de pétrole dans la ville de Tahrin, a rapporté Al-Masdar News. Les experts suggèrent que les frappes ont été menées par des drones Orion ou plusieurs engins de combat aérien du même modèle. Mais le face-à-face n'en restera pas là. Appuyés par Ankara et l'OTAN, les terroristes envisagent de violentes offensives contre la DCA russe déployé dans la base aérienne Meymim, située dans le port de Latakié, à l'est de la Syrie. L'aviation russe continue d'attaquer les positions des terroristes près de la base aérienne de Meymim. Les terroristes, qui sont devenus actifs dans la province syrienne de Latakia, planifie à nouveau une série de provocations et d'attaques visant les positions de l'armée syrienne et celles de l'armée russe. En riposte, les bombardiers russes ont commencé à frapper leurs repères, positions et équipements. Selon les médias syriens, l'aviation russe frappe activement une zone située à seulement quelques dizaines de kilomètres de la base aérienne de Khmeimim. Les sources sur le terrain rapportent que l'aviation russe tente de frapper les repères des terroristes et des entrepôts souterrains de stockage d'armes et de munitions conventionnelles hautement explosives et performantes afin de contrer les frappes que les terroristes pourraient mener sur les positions de l'armée syrienne et même l'aérodrome militaire des Russes à Khmeimim. Parallèlement à cette campagne de frappe aérienne, l'armée syrienne a intensifié ses opérations au sol. Les forces de l'armée syrienne et les terroristes de Jaish al-Nasr, soutenus par la Turquie, se sont affrontés dimanche soir dans le village d'Al-Ankawi, dans le district de Sahl al-Gharb, à Hama. 11 terroristes ont été tués, selon le centre d'information Harbi Press. Cette agence affirme que le groupe terroriste Jaish al-Nasr est affilié au Front National de Libération, Al-Jabha al-Wataniya, et qu'il est contrôlé et soutenu par l'armée turque. La Turquie saura-t-elle maintenir ses positions sur l'autoroute internationale M4? Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, n'écarte pas un clash direct avec l'armée syrienne et ses alliés dans les semaines à venir. Reste à savoir si, oui ou non, il aura gain de cause. Par ailleurs, des forces locales dans la province syrienne d'Alep font état d'un intense pilonnage des positions des terroristes soutenus par la Turquie de la part de l'artillerie de l'armée syrienne. Samedi, l'armée syrienne a bombardé les positions d'une organisation terroriste Al-Jabha al-Wataniya près de 2 villages dans l'ouest de la province d'Alep. Les rapports préliminaires font état de lourdes pertes et dégâts subis par les terroristes soutenus par Ankara lors de cette attaque syrienne. Dans le même temps, des sources locales proches de l'opposition ont rapporté que des avions de combat russes ont bombardé les positions des groupes armés dans la province syrienne de Latakia. L'armée syrienne a réussi à libérer une grande partie du territoire du contrôle des groupes terroristes, mais certaines parties de la province d'Idlib et d'autres provinces du nord restent sous occupation des terroristes en raison du fort soutien des États-Unis, de la Turquie et des gouvernements rétrogrades arabes. Treize soldats nigérians ont été tués samedi dans une embuscade tendue par des takfiristes liés à Daesh dans l'état de Yobe, dans le nord-est du Nigeria, ont déclaré lundi à l'agence France-Presse deux sources militaires. Ces combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont ouvert le feu sur un convoi militaire avec des armes lourdes et des lance-roquettes dans le village de Gazagana, près de la ville de Goujba, à 30 km de la capitale de l'État, Damaturu, selon ses sources. L'armée nigériane, qui a tendance à minimiser les bilans de victimes, a déclaré avoir perdu un soldat dans cette embuscade et avoir neutralisé 28 terroristes takfiristes, selon un communiqué officiel. Mais un officier aurait déclaré à l'AFP que 13 soldats ont péri dans cette embuscade et plusieurs ont été blessés. Le convoi était en route vers une base militaire située dans la ville de Bouniadi, à 50 km de Damaturu, a précisé à l'AFP une deuxième source militaire qui a communiqué le même bilan. Les affrontements ont été féroces et les terroristes ont également subi des pertes, a ajouté cette source, sans donner de nombre de terroristes takfiristes tués. La région de Bouniadi est un des bastions de l'ISWAP qui y mène régulièrement des attaques contre des militaires et des voyageurs. Les insurgés se déplacent sur l'axe reliant Bouniadi et un camp situé dans une forêt dans l'état voisin du Borno. Des affrontements réguliers se produisent entre les takfiristes armés et les groupes sur cet axe. Depuis 2009, le nord-est du Nigeria et particulièrement l'état du Borno est en proie aux attaques du groupe Boko Haram. En 2016, Boko Haram s'est scindé en deux factions, celle dirigée par le chef historique Aboubakar Shaku et l'ISWAP affilié au groupe Daesh. Depuis le début du conflit, plus de 36 000 personnes ont été tuées et plus de 2 millions de personnes ont dû fuir leur domicile.
Thank you.